Famille, justice, enfance.
RLP 102.3 aujourd'hui avec David Vincent. Nous allons parler aide sociale à l'enfance, nous allons parler juridique. Aide sociale à l'enfance, c'est un sujet que nous abordons régulièrement sur Radio Libre en Périgord dans Famille, justice, enfance. Parce que l'état des lieux, en fait, est améliorable, en fait. On pourrait faire beaucoup mieux. C'est le signe de toute civilisation évoluée que de prendre soin de ses enfants, me disait l'un de mes invités. Les bonnes intentions ne suffisent pas, lui ont répondu un autre de mes invités. David, bonjour, comment vas-tu?
Bonjour Stéphane, merci de ton invitation. Je vais bien. Aussi bien qu'on puisse aller dans cette météo changeante et voilà, j'ai un peu le rhume comme tout le monde, donc tout va bien.
Ok. Alors David, tu te présentes comme étant juriste autodidacte. Toi et moi, nous connaissons, on va dire, depuis un an et demi. On a commencé à se parler durant les campagnes des élections européennes. C'est là que vraiment j'ai commencé à te connaître, quand j'ai rencontré un certain nombre de parents qui étaient victimes de placement et que tu gravitais autour. Sapa, hein, pour ne pas les nommer. C'est là, je crois, qu'on a vraiment commencé à se parler les premières fois. Donc ça fait... voilà, donc je peux te faire passer sur l'antenne de RLP parce que c'est plus d'un an que je regarde ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu parles, et ça me paraissait vraiment intéressant car je pense que tu fais partie de l'équation. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter rapidement? Déjà, est-ce que ma présentation te convient ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Ça me convient, c'est parfait. J'ai peu de choses à ajouter. J'ai 49 ans, je suis papa, j'ai un fils qui vit à l'étranger avec sa mère, divorcé évidemment. Et en fait, oui, juriste autodidacte, pourquoi? Parce que je me suis attaqué à un sujet que personne ne me semblait avoir pris à corps. J'avais commencé à m'intéresser profondément au juridique pendant la période Covid, puisque j'avais ouvert une page sur Facebook, France, mes droits pendant la crise de la Covid. Et en fait, j'ai ouvert cette page parce que je m'étais aperçu que, entre ce que j'entendais au marché ou que les gens s'échangeaient sur le sujet de Covid, n'était pas vraiment en corrélation avec ce que je pouvais voir sur le journal officiel de la République française. C'est-à-dire qu'on entendait, ah bah tiens, les masques sont obligatoires, ah bah tiens, on va devoir fermer les magasins. Enfin bref, on se rappelle tous de cette période froide, j'ai envie de dire. Et moi, je n'écoutais pas les gens. Déjà, j'ai pas la radio, j'ai pas la télé. Enfin, si, la radio quand je vais dans la voiture, mais j'ai pas la télé. Donc, pour moi, elle est au coin depuis longtemps parce que tant qu'elle mentira, il y a aucune raison que je l'allume. Sinon, pour regarder ce que je veux. Et donc, j'allais sur le journal officiel de la République française tous les jours, tous les matins. Et j'allais chercher donc quels étaient les décrets, les arrêtés, éventuellement les lois qui sortaient par rapport au Covid. Cherchais également les circulaires. Enfin bref, je tenais à jour sur tous les débats parlementaires lorsqu'il y a eu les différentes lois. Et en fait, si tu veux, j'ai constitué une certaine connaissance sur cette matière. Je connaissais les textes quasiment par cœur à la virgule près. Et donc, très rapidement, on m'a mis dans un groupe d'avocats sur un réseau social privé. On m'a mis sur un groupe d'avocats et j'étais leur référence. Et puis un beau jour, mon employeur, parce que je garde des enfants, mon employeur a eu une information préoccupante, et c'est comme ça que j'ai découvert que ce qu'est l'aide sociale à l'enfance. Alors j'ai toujours eu vent, grosso modo, de ce qui s'y passait, parce que bon, ben voilà, quand on est papa, on connaît un petit peu. Mon ex-femme étant enseignante, forcément. Connais aussi parce qu'on entend parler de choses. Je suis quelqu'un d'assez documenté puisque j'ai été un des miroirs de Wikileaks pendant près de 15 ans. Donc j'ai eu accès à énormément de données. Donc pour moi, l'aide sociale à l'enfance, c'est la continuité quelque part de la conscience que j'ai du monde dans lequel on est aujourd'hui, qui n'est absolument pas celui qu'on veut nous vendre. Voilà, on est vraiment, de mon point de vue, dans une matrice. On superpose à notre regard ce que l'on veut bien que l'on voit, mais l'envers du décor est tout autre. Voilà.
Alors, tu as dit des choses qui sont intéressantes, qu'on ne voit pas forcément apparaître dans tes interventions précédentes, qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Tu es donc passé par un divorce qui s'est bien passé ou qui a été conflictuel?
Très mal.
D'accord. Tu es passé par un divorce.
J'ai tout perdu.
D'accord. Donc, tu t'es fait défoncer par ton ex et tu as eu du mal à accéder à ton enfant, c'est ça?
J'ai tout perdu, oui. J'ai tout perdu. D'accord. Au point de perdre même. J'ai perdu mon toit, j'ai tout perdu. En gros, la vie m'a dit tu t'en vas.
Tu vois, tu as le petit logo derrière, équité parentale, tu sais que je tenais les permanences pour les gens comme nous à une époque. Donc, on est dans le contexte, on se comprend. Donc, déjà, ton point de départ, qui d'ailleurs pour moi est le point de départ des sociales à l'enfance, très souvent, c'est le divorce, la séparation conflictuelle qui va rendre la mère isolée avec l'enfant et qui va dépaterniser, en fait, qui va enlever le père de l'équation familiale. Et la seconde étape, très souvent, est l'ASE qui vient. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder parce que, comme ça, on comprend un peu mieux aussi, toi, comment t'es venu dessus. La deuxième chose que tu viens de dire, c'est que tu as été miroir de Wikileaks. Alors, rapidement, Wikileaks, Julian Assange.
Exactement. Exactement. Alors, Wikileaks, pour ceux qui ne savent pas, Wikileaks, en fait, est une plateforme qui a été développée pour permettre la publication d'informations obtenues par les journalistes de manière régulière ou irrégulière, qu'importe, afin de mettre à la portée de tout le monde les informations qui, normalement, servent de source ou d'origine à l'information que l'on reçoit par les médias. Un média, Nicolas Bouvier en parle très très bien, un média, un journaliste est soumis à la charte de Munich et je ne sais plus quel article dit bien que le journaliste ne doit pas être un propagandiste et surtout il doit, quelles qu'en soient les conséquences, dire la vérité. Et le problème qu'on a aujourd'hui avec les médias, c'est qu'on le voit bien, ils ne disent pas la vérité, ils sont à la solde, on va dire, de leurs propriétaires qui sont les milliardaires. Et qui dirige, le vrai pouvoir il est là, donc il dirige l'esprit des gens, c'est la manipulation sociale. Donc Wikileaks c'était cette plateforme qui permettait à tout un chacun de déposer des documents qui normalement relèveraient du confidentiel, et ça a été justement le problème, c'est que ce qui a été reproché à Julian Assange, et moi je ne partage pas ce point de vue, ce qui a été reproché à Julian Assange, c'était de mettre à disposition à tout un chacun les informations sans filtre et sans analyse, donc de manière absolument brute.
Voilà. Qui d'ailleurs était, on pourrait presque même dire que les informations que Julian Assange proposait on était très très proche des services de renseignement, d'information, de contre-information, de la source de l'information avant qu'elle ne soit traitée pour être diffusée au grand public de manière brute. C'est ça en fait qu'on peut dire.
C'est ça. Alors, c'est vrai que ce qui a été reproché à Julian Assange, c'est de laisser les informations brutes à disposition de tout le monde. Ce qui, pour certains, est considéré comme étant, c'est une information brute, elle n'est pas remise dans le contexte, elle n'est pas remise en dimension, et donc elle est disponible et à la portée de toute interprétation et donc de toute déviance d'interprétation qu'on pourrait en faire. Moi, je considère que l'information est quelque chose qui doit rester libre. Donc, je partage assez ce point de vue avec Julian Assange, que je n'ai jamais ni rencontré, ni échangé, ni dialogué. Hein. Je sais juste qui c'est. C'est quelqu'un pour qui, effectivement, j'ai une admiration parce qu'il faut un courage de fou pour faire ce qu'il a fait. En fait, non, il faut juste être un homme.
Il a donné sa vie pour la cause, très clairement.
Exactement. Exactement. Et donc, quand je me suis rendu compte, puisque j'ai fait 20 ans d'informatique, et j'avais une grosse machine connectée chez moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui tournait, enfin bref, j'avais mon propre serveur à la maison, j'étais mon propre hébergeur de données, mon téléphone connecté directement sur mon serveur de mail personnel, je veux dire, j'étais complètement autonome de tous les autres services des GAFA, par exemple. Donc, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait être miroir de Wikileaks, et qui avait besoin de je ne sais plus combien de gigas de data et que je les avais, ben j'ai décidé de me connecter en fait au système de réplication. Donc je deviens un miroir de Wikileaks tout simplement. Okay. Ça m'a permis de pouvoir lire beaucoup de choses.
Oui, bien sûr. C'est pas le sujet majeur de l'émission, non. Mais ça permet de voir que tu es un pays, si tu veux, qui a accès à l'information, qui est éveillé et qui ne va pas forcément croire tout ce qu'on te raconte. C'est ça, en fait, que les relevés sont mis en avant. Voilà, ça a son importance.
Le lien que je fais avec la protection de l'enfance aujourd'hui, c'est que dans ces données de Wikileaks, de mémoire, hein, il y avait le CD-ROM de Zandvoort, il y avait le dossier Outrol, le dossier Dutroux et tous ces dossiers connus sur la pédocriminalité, le Coral.
Oui, et de manière monstrueuse. Et vraiment,
et bien, on censurait.
On pouvait voir ce qu'il y avait dedans, sans filtre.
Exactement. Donc, moi, j'ai eu accès à tout ça, mais il y a très longtemps. C'est comme si, quelque part, un petit peu... Alors, j'ai pas envie de te dire que je suis en mission. J'y crois pas un seul instant. Mais parfois, je me pose des questions, parce que quand je vois la vie, la façon dont elle a été menée, les étapes que j'ai franchies, ben, quelque part, l'aboutissement aujourd'hui, qui est celle de s'occuper de ce sujet qui est l'ASE, ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Pas du tout, parce que...
Si tu rentres là-dedans, on va gagner du temps. Si je te dis protocole de Toronto, tu y crois ou tu n'y crois pas ?
Alors, Protocole de Toronto, Serge Menast, j'ai jamais la date en tête, chaque fois je les confonds. Document extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que, alors, si on le prend sous l'angle des médias mainstream d'aujourd'hui, ils vont dire tout simplement, ce document est un document hautement complotiste, il ne vaut rien, c'est à jeter la poubelle, à ne pas lire. Ok, très bien. Alors, moi j'invite tous ceux qui nous
c'est
écoutent,
pas une
au contraire,
ne le
à aller lire
pas.
Ce document.
Voilà. C'est pas une réponse.
Alors, pourquoi le lire ? Parce que quand on lit ce document qui semblerait avoir été écrit dans les années 60 et qu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe, eh ben, ce document était vraiment prémonitoire puisque l'objectif était, je le résume en quelques mots parce qu'il fait quand même de mémoire une trentaine de pages. Donc, en gros, c'est de dire, on va mettre en place une organisation mondiale. Cette organisation mondiale va mettre en place des chartes, notamment pour une charte des droits de l'enfant, et on va organiser au sein des États des institutions qui auront la charge de la protection de l'enfance, mais dont le véritable dessein sera la séparation des enfants de leur famille. Pour les faire élever selon les attentes que le système a, c'est-à-dire d'en faire, au regard de la France, par exemple, des bons petits républicains. Bon, donc c'est la séparation des familles, mais c'est pas seulement les enfants, c'est également la femme au travail, donc destruction de la famille, et c'est également les vieux dans les mouroirs, les EHPAD.
De la famille traditionnelle afin d'éviter les liens tribaux, les clans, et de rendre les gens en tant qu'individualité manipulable, sachant que le lien tribal, le lien familial est remplacé par l'État. C'est ça, en fait, le protocole de Toronto.
Exactement.
Avec une gestion de la population, une gestion de la démographie, une gestion de l'éducation, une gestion du début de la vie et une gestion de la fin de vie.
Ça, c'est exactement ça. Donc, destruction de la famille, on envoie les vieux dans les mouroirs, les jeunes, les enfants dans les écoles le plus tôt possible, les femmes au travail, la famille est brisée. Donc, on va mettre des institutions de protection de l'enfance et qui osera s'élever contre ça, sinon qu'il sera accusé d'être un barbare des temps médiévaux,
etc. Et on pète le rôle du père, et on pète le rôle du père en tant que référent, en tant qu'éducant.
Alors, historiquement, c'est intéressant. Tu m'excuses, je bois juste un coup.
Vas-y. Il nous reste
si tu veux, moi, j'ai
15, 16, 17 minutes. Vas-y.
Alors, moi, j'ai une approche, si tu veux, j'ai une approche de ce sujet qui est, je dirais, anthropologique. C'est-à-dire qu'en fait, comme je ne suis pas quelqu'un qui a été formalisé par le système éducatif et encore moins universitaire, j'ai une page blanche, donc il fallait que je la remplisse. Donc quelque part, je n'ai aucune limite. Et je dirais que mon maître à penser en cette matière, à qui je rends hommage, qui s'appelle maître Philippe Fortabat-Abattu, m'a bien enseigné le fait qu'il faut toujours aller voir les débats parlementaires pour comprendre l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, on retombe sur Montesquieu. Bien et sûr. Donc, très très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait retourner dans le passé pour comprendre le présent, donc qui ne sait d'où il vient, ne sait où il va. Et donc, je passe mon temps, si tu veux, avec énormément de documents qui sont toujours les mêmes. Je parlais justement de la destruction de la puissance paternelle. Elle a été modifiée dans les années 70, lors de la réforme de la puissance paternelle en autorité parentale. Donc, c'est la loi qui a accordé autant de droits à la femme que l'homme en matière d'autorité sur l'enfant, puisqu'avant, c'était le père qui avait la puissance paternelle. Moi qui suis 76, je suis un des jeunes enfants qui succède à cette réforme. Effectivement, je voyais bien dans mon modèle familial, mon père, c'était le père, c'était le chef de famille, et ma mère était celle qui s'occupait des enfants à la maison, et quand le père décidait, elle fermait sa gueule. Bon, c'est un vieux modèle. En mettant l'autorité parentale conjointe, aujourd'hui, on estime que papa et maman, c'est l'égalité, pas de discrimination. Ça s'inscrit, si tu veux, dans cette notion progressiste, qui n'est pas forcément mauvaise sur ce point-là, mais rappelons que les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 74 en Suisse, si je me rappelle bien, et dans cette même zone à peu près en France. Mais bon, sans parler du chèque pour les femmes en France. Donc, si tu veux, la société, elle progresse. Et pour comprendre comment elle progresse, il faut regarder d'où elle vient et relire les textes. Donc moi, je retourne très souvent dans les textes, les débats parlementaires et l'historique, si tu veux, des textes juridiques pour comprendre leur esprit. Et en fait, là où on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons donc l'autorité parentale qui est en voie de destruction au profit d'une prochaine réforme qui gentiment s'installe de manière insidieuse, déjà dans les textes, sans pour autant la réforme n'ait même été écrite, mais qui est une volonté de l'ONU que de vouloir réformer l'autorité parentale en responsabilité parentale. Donc là, c'est très grave parce que on va retirer le mot « autorité » aux parents. Si tu prends la Constitution française, le président de la République a le pouvoir. Les magistrats sont une autorité judiciaire. Les sénateurs et les députés, donc les parlementaires, sont des autorités législatives. Donc nous avions avant la puissance paternelle, qui a été modifiée en 70 par une réforme qui l'a amenée vers l'autorité parentale, et aujourd'hui, de manière insidieuse, par la volonté notamment de l'agenda 2030, on se rend compte qu'ils veulent substituer l'autorité parentale par la responsabilité parentale. Les mots sont très très importants parce que si tu prends la Constitution française aujourd'hui, celle de 58, le président de la République, il a le pouvoir. Si tu prends toujours cette Constitution et que tu regardes qui a le pouvoir, qui a un pouvoir là-dedans, en fait, non, il n'y a personne, il n'y a que lui. Par contre, nous avons une autorité judiciaire. Nous avons les parlementaires, sénateurs et députés qui ont l'autorité législative, d'accord ? Et donc, il faut bien comprendre que le mot autorité, c'est celui qui, il est au-dessus, quoi. Là, il décide, il est indépendant. Et donc, aujourd'hui, on considère donc que nous avons l'autorité parentale, puisque depuis la loi de 70, ça a été réformé ainsi, mais nous avons l'agenda 2030 qui veut nous amener vers la responsabilité parentale, ce qui veut dire qu'on va retirer cette notion d'autorité au profit d'une notion de responsabilité. Et donc, voilà. Puisqu'il y a une notion de responsabilité, ça veut dire que nous, les parents, ne serions plus autoritaires, et donc, qui aurait cette autorité par définition ? Ce serait donc l'État. Et on retombe sur les mots de Marisol Touraine. Un membre du gouvernement avait dit il y a quelques années, les enfants appartiennent à l'État.
Oui, non, mais la loi 15 à Québec, remise en cause de la primauté biologique. Je veux dire, c'est des choses qui nous viennent beaucoup des pays anglo-saxons et malheureusement, au Canada, à Québec notamment, ça se met en place. Voilà. Et dans cette loi, on l'avait vu avec Alain Rioux, quand on avait étudié cette politisation, on a vu se mettre en place une structuration qui faisait que, comme tu dis, de l'autorité, on passe à la responsabilité, donc on est potentiellement coupable, et on embauche des personnes très jeunes, qui ont très peu d'expérience de vie, pour les envoyer enquêter dans les familles. Alors là-bas, c'est un petit peu différent de nous, c'est-à-dire que ceux qui passent, qui sont juges, ont été avocats auparavant, mais on a un taux, je crois, de jugement qui approche les 97 ou 98% d'approbation des demandes de l'aide sociale à l'enfance qu'il y a à Québec, ce qui veut dire que des jeunes viennent, vont chez toi, disent qu'il y a un truc qui leur plaît pas parce qu'ils ont bien été formatés par un an et demi d'études, et l'État vient et sépare les enfants des familles, avec en arrière-plan aussi éventuellement des processus d'adoption pour certaines familles aisées ou qui ne peuvent pas par eux-mêmes avoir des enfants. Ça va très loin, hein, ce qui se passe là-bas, à Québec, hein. Mais c'est en train de se faire chez nous quand même. Bon.
Il se passe la même chose en France. En fait, je vais être très clair. Je vais te donner ma position après plus de 3 ans et demi d'études de cette matière, de ce sujet, de ces institutions, puisque c'est une institution non pas nationale, mais des institutions départementales.
C'est étonnant de voir que tous les deux informaticiens, analystes informaticiens, et que toi tu es parti dans l'analyse de la loi et de la société, et que moi je suis parti dans l'analyse des sciences humaines, la sociologie, la psycho. C'est rigolo quand même de voir ça.
Absolument, et c'est là qu'on se complète. Moi, tout seul, j'arrive rien à faire, et j'ai besoin de gens comme toi pour compléter, si tu veux, mes travaux. Et puis d'autres aussi. Enfin bref, pour moi cette institution, je vais être très clair. J'entends ci ou là que je ne suis pas contre l'aide sociale à l'enfance. Il y a besoin d'une aide sociale à l'enfance. Je partage, si tu veux, la deuxième partie de la phrase. Il y a besoin effectivement d'un système qui prend en charge les enfants qui sont effectivement un abandonnés et deux maltraités. D'accord. Ça, effectivement, je peux le comprendre.
L'ordonnance de 45, mais elle n'est plus appliquée.
Non. L'ordonnance de 45, c'était la réforme du juge des enfants qui prenait à ce moment-là uniquement les enfants qui étaient délinquants, donc c'est-à-dire criminels.
Ouais, c'est ça. C'était délictueux.
D'accord. Bien sûr. Alors, moi, là où j'en viens, c'est que, à force de creuser ce sujet, et moi, je remercie Marion Sigaud, justement, d'avoir fait ses travaux sur l'hôpital général, et ben en fait, je m'aperçois que plus j'avance. Voilà. Non, mais plus j'avance dans cette étude et je me dis, en fait, cette institution ne peut pas être réformée. Elle doit être rebâtie de zéro. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis 1656, donc grosso modo un peu moins de 400 ans, qu'elle fonctionne sur un modèle qui déjà à la base avait pour objectif de séparer les enfants de leurs parents, de les prendre en charge sous tutelle automatique des magistrats. Et en fait, on a beau eu à voir des réformes successives, cette institution, elle perdure, si tu veux, une fondamentale qui est la séparation des familles, Et je vais même le dire comme je le pense, puisque Marion l'a démontré avec Judith Reichmann, la déportation d'enfants, le trafic d'êtres humains, le trafic d'enfants. Donc pour moi, cette institution ne peut pas être réformée. Alors, attention, je sais que dans ces institutions-là, il y a des gens qui font très bien leur boulot. J'en connais. Je connais des éducateurs, ils font très bien leur boulot. Je connais des assistantes familiales, ils font très bien leur boulot. Il y a des assistantes sociales, elles font très bien leur boulot. Le problème, c'est pas qu'il y en a qui font bien leur boulot. Le problème, c'est que dans ces institutions-là, arrivent à se faire engager des gens, mais à tous les niveaux de poste, hein, qui eux, finalement, vont arriver avec ce dogme progressiste de destruction de la famille, qui pour moi n'est rien d'autre que la prolongation du projet Action T4, dont les historiens sauront de quoi je parle. C'était en fait les Allemands qui ont modifié leur démographie en allant enlever des enfants du côté notamment de la Pologne, mais pas que, le plus jeune possible, afin de les élever selon les modèles allemands, faisant croire que à ces enfants que c'était des Allemands. Donc, la démographie était artificiellement entretenue grâce à cette déportation d'enfants. Mais l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, c'est pas mieux que ça, puisque elle veut absolument remodeler un format éducatif selon la volonté de tout un chacun, sans qu'il n'y ait de modèle éducatif posé. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, tu peux avoir un père qui vit avec ses deux gamins, tout va bien, il a été divorcé, séparé, ok, très bien, et madame se fout des gosses, ok, très bien. On ne sait pas pourquoi un jour, là, je rentre dans la vie de ce père, ah mais non, vous comprenez, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais eu de conflits parentaux, il n'y a jamais rien eu, la mère ne demande rien, mais non, il faut que les gamins voient la mère. Et tu vas avoir l'ASE qui va aller voir le juge et qui va dire, voilà, vous comprenez, cette famille, ça ne fonctionne pas, et ils vont se mêler de la vie privée des gens.
Plein d'exemples comme ça où ils vont venir essayer de rééduquer l'environnement familial pour qu'il corresponde à leurs stéréotypes. Là, j'en ai plein. Je rebondis quand même sur ce que tu as dit. L'aide sociale à l'enfance, nous ici, et dans le livre qui était sorti suite à la campagne aux européennes, on l'a aussi analysé en un découpage d'étapes et découpage de tâches de personnes qui ne communiquaient pas ensemble pour, au niveau global, mettre en place un certain résultat, si tu veux. C'est une pratique qui a été utilisée par le passé. Tu as quand même des jeunes administratifs qui n'ont jamais foutu les pieds dans un foyer, qui n'ont jamais fait d'éducatif, qui parfois n'ont jamais été parents, c'est à eux qu'on confie l'éducation. Le civil, ce sont des juges en début de carrière qui, avant d'accéder aux choses brillantes dans lesquelles ils veulent aboutir, en septembre, se font attribuer les postes de JAF ou de JDE. La spécialisation est un choix personnel. Il y en a très peu qui prennent cette volonté personnelle. Donc, tu te retrouves encore une fois avec des gens un peu politisés, un peu qui sont un petit peu jeunes, en fait, dans leur parcours principal, qui vont être décisionnaires. Et les véritables professionnels, les gens qui ont tout mon estime, mon respect, qui sont les éduques. Moi, j'ai fait un peu de travailleur social à une époque. J'ai eu mon époque, cheveux longs, guitare, je voulais sauver les gens. Et ben, ils sont en fin de chaîne, mais tout s'est passé en amont. Tout s'est passé en amont. Les dossiers qui leur arrivent sont à moitié pourris. Et surtout, l'environnement est maltraitant et l'environnement est parfois beaucoup plus maltraitant que l'environnement d'origine d'où proviennent les enfants qu'on leur envoie. Oui.
Alors, sur le côté maltraitance, effectivement, j'ai un problème fondamental avec ça, c'est que c'est la loi de 1970 qui a vraiment été problématique parce qu'en fait, de cette loi, on part du principe, puisqu'on réforme la puissance paternelle en autorité parentale, tout parent qui continueront à fonctionner sur ancien modèle, on viendra prendre leur gamin pour leur assurer que les gamins seront élevés selon les nouveaux modèles. Donc, on a mis dans la tête de l'ASE, l'article 375 du Code civil, il sert à enlever les enfants de la famille pour les mettre en protection. Comme Michel Hamas le démontre très très bien, l'avocat Michel Hamas de Marseille le démontre très très bien aujourd'hui, tu as 25 000 gamins, entre 15 et 25 000 gamins qui se prostituent à l'ASE. Résultat des courses, moi ce que je tweete aujourd'hui quand je réponds là-dessus, c'est oui, mais ils se prostituent pas chez leurs parents. Parce que dans la tête de l'ASE, mais des magistrats, des sociaux, des écoles, de beaucoup d'avocats, de beaucoup de gens lambda, pour eux, la protection de l'enfance, c'est la protection de l'enfance contre leurs parents. Or,
non, mais ils ont une vision idéalisée. Moi, encore vendredi, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais dès qu'on a un doute ou quelque chose, il faut absolument envoyer tout le monde parce que tu comprends, à l'époque de nos grands-parents, les grands-parents, les pères, tout le monde sautait, tout le monde dans les familles, c'était l'horreur, c'était l'enfer. Oui. Aujourd'hui, quand même, heureusement qu'on s'occupe de nos enfants. Génial, quoi. On est à 13 ou 14 milliards d'euros par an, on est à 300 000 milliards.
Je prends mes dossiers.
prostitution pour la Jonquera, enfin, c'est des trucs de fou. Hein.
Moi, je prends mes dossiers, je me prononce sur mes dossiers. J'en ai depuis 3 ans et demi, j'en ai plus de 300, d'accord ? J'ai une centaine par année, grosso modo. Donc, qu'est-ce que je vois ? La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Le juge ne sait pas ce que c'est une action éducative en milieu ouvert. Le juge ne sait pas. Je vais te donner un exemple concret, ça va parler aux gens. Quand tu prends une AEMO, c'est une association qui va s'en occuper. Sauf que quand vous avez une association qui est nommée, eh ben allez voir le projet éducatif de cette association. Je ne parle pas des statuts de l'association, je parle du projet éducatif de l'association. J'ai une famille. L'enfant a une maladie inconnue en France.
Le fameux PPE, bah, il paraît qu'il y en a.
Non. Je ne te parle pas du PPE. Je te parle du projet éducatif de l'association. Tu vas vite comprendre.
Il y a un euro à la fin, je crois. C'est le symbole comme ça avec le E, les deux traits. Là.
Alors, le projet éducatif, si tu veux, tu as une association, on lui confie une AEMO. Elle a un projet éducatif. Je vais te le faire par l'exemple, tu vas comprendre. J'ai un dossier dans lequel il y a une petite fille qui a une maladie très très grave, inconnue en France. Le placement a été ordonné, on a réussi à le faire sauter. L'avocat fait un travail merveilleux. On lui colle une AEMO. Très bien. L'association qui est désignée, je me rends compte en fait que cette association-là, elle a pour projet éducatif de faire de l'insertion de mineurs non accompagnés, donc de mineurs étrangers, et de la réinsertion de mineurs ayant été condamnés soit pour délit, soit pour crime, par le juge des enfants. Donc, l'association débarque dans cette famille avec son projet éducatif. On va rééduquer tes gosses.
C'est ça.
Mais il est là le problème, c'est qu'en fait l'ASE n'est qu'un service de gestion de flux. J'ai une place ici, ce sera cette association. J'ai une place là, il faut que je la remplisse. La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche.
Non, mais j'ai des dossiers où les enfants veulent voir l'un des deux parents, et puis ils vont tous décider que non, c'est pas comme ça, puis on va aller rééduquer l'autre parent pour qu'il apprenne à s'en occuper. Ils essaient de passer en force. Et à la fin du processus, les enfants, ils sont en rupture scolaire, ils se sont fait violer une trentaine de fois, ils sont complètement décalqués, les deux parents sont arrivés aux minima sociaux, ils ont largué toute leur possession personnelle et ça a coûté un pognon de dingue à la collectivité. Par contre,
J'en connais qui en 3, 4 à 5 ans ont dépensé jusqu'à 100 000 euros.
Oui, c'est ça.
Je crois que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il faudrait retrouver. C'est Nadine Plestan qui est très connue dans ce milieu-là. Elle a dépensé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est dans les 2 ou 300 000 euros
Beaucoup d'anonymes, hein, qu'on fait de sites personnels. Oui, tout à fait. OK. Alors, écoute, c'est
ça parce qu'elle est publique, la formation.
Absolument, absolument. Mais, j'ai eu accès à plusieurs dizaines de dossiers, voire plusieurs centaines de mon réseau aussi de manière générale. Les divorces, moi, je suis rentré par la porte des divorces qui se passaient mal. Hein, ça a été ma porte d'entrée, très clairement. Ce sont devenus des hélices et des usines à appauvrir les gens, puis à démolir les gamins et à les priver d'études longues. On va le dire très clairement. Cette émission, en fait, c'est une introduction. Ceux qui veulent aller plus loin, je les encourage à aller sur la chaîne YouTube. Je dis bonjour à ceux qui se sont présentés. Bon, bonjour l'être vivant. Il y en a d'autres qui ont dit bonjour comme ça dans les commentaires YouTube. Là, actuellement, nous sommes sur un live YouTube. Cette émission sera retransmise en différé. Je vous remercie tous. Générique de fin, pour ceux qui sont sur YouTube ou pour ceux qui regardent la retranscription sur YouTube, nous allons maintenant aborder une série de questions mitraillettes, de questions-réponses. Qui continuera tout ça ? David, merci d'être venu.
Merci à toi. Merci à tes auditeurs.
On te contacte.
droit.aze@hotmail.com
et on peut comme ça te joindre et discuter avec toi et avoir ton avis notamment. Tu as des avis très juridiques que nous allons aborder plus tard. À tout le monde, à la semaine prochaine, au revoir.
RLP, Radio Libre en Périgord.